La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, qu'est-ce que l'intelligence ? Eh bien, elle comprend aussi l'expérience mystique et la philosophie. À la fin des degrés du savoir, publié en juillet 1932, Maritain propose une autre manière de connaître qui ne soit pas fondée sur le concept et qu'il intitule l'expérience mystique. Comment expliquer que, après les degrés de savoir qui ont parlé du premier degré, à savoir des sciences expérimentales, puis du deuxième degré, à savoir de la mathématique, puis du troisième degré, à savoir la métaphysique, comment peut-on envisager l'expérience mystique ? Ne va-t-on pas susciter des sourires ? On va se gausser. Non, le contexte s'intéresse fortement à la mystique, justement, vu comme quelque chose d'éminemment irrationnel qui va s'opposer à la raison. Souvenez-vous, 1924, on a le Manifeste du surréalisme, publié par André Breton. On cherche une écriture automatique. Le surréalisme est marqué par les avancées de Freud, donc le rôle de l'inconscient. Et il y a toute une littérature qui va se développer autour des pôles irrationnels. Alors la mystique en est un, comme l'écriture automatique des surréalistes en est un autre, comme, pour Maritain, la montée des totalitarismes avec un irrationnel qui vient se manifester dans cette focalisation qu'on va avoir autour d'un Führer, que ce soit Mussolini ou Hitler. C'est une des explications que Maritain donne à cette adhésion aveugle au totalitarisme. La transition entre les degrés du savoir avec ses trois degrés, dont le dernier est la métaphysique, et l'expérience mystique, elle est donnée par Maritain à partir d'une interprétation du récit de la Genèse. Dans le Jardin d'Éden, Ève et Adam ont enfreint l'interdit, c'est-à-dire un mode de non-fusion entre l'homme et Dieu, à savoir de ne pas manger, de ne pas toucher à l'arbre qui a le fruit de la connaissance. Puis vous connaissez l'histoire, le serpent, c'est-à-dire le tentateur sous forme de serpent, vient tenter Ève en lui disant que justement, elle serait comme un dieu, comme des dieux exactement. Et du coup, le fruit est mangé, Adam et Ève connurent qu'ils étaient nus et ils se vêtirent. Ils se firent des pagnes en feuilles de figuier. Eh bien, ces pagnes sont aussi une illustration de l'intelligence qui est révélée comme nue. Et Maritain voit dans l'outillage de l'intelligence, les concepts, les notions, etc., la possibilité d'avoir une connaissance, mais une connaissance qui est en quelque sorte blessée. La prise de conscience de la nudité d'Adam et Ève vient après la faute. Et le pagne permet de vivre. Et de même, le concept est le propre de l'homme pour rapprocher de Dieu. C'est donc, vous le voyez bien, la défense d'une théologie cataphatique, c'est-à-dire occidentale, qui dit que par la raison, par le logos, on peut s'approcher le plus près possible de la connaissance de Dieu. La théologie apophatique dit non, 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 on ne peut rien dire de Dieu, sinon on enlève le mystère. Pas du tout. On peut, au contraire, avoir une approche apophatique tout en ayant une approche cataphatique. Et c'est un peu ce que va tenter Maritain, non pas en disant que la contemplation est une manière cognitive de Dieu, puisque la contemplation, sa finalité, c'est de contempler, et on connaît en contemplant, mais par l'expérience mystique. C'est comme si un mystique, comme Saint Jean de la Croix, comme Saint Thérèse d'Avila, qui ont pu écrire, nous parlait de Dieu d'une autre manière que le concept. Alors regardons ce texte de transition qui est à la toute fin de la cinquième partie, avant d'entrer dans la sixième partie des degrés du savoir. Il est dit que Dieu fit à Adam et Ève exiler des vêtements de peau. Pareillement, il nous fait lui-même, par le moyen de ses prophètes, puis de son Fils incarné et de son Église, des tissus de mots et de notions pour vêtir la nudité de notre intelligence en exil. jusqu'à ce qu'elle le voie. C'est ainsi que la foi doit nécessairement procéder de façon cataphatique, puisqu'elle nous communique, en vertu du témoignage de la vérité première, autrement dit, de l'infaillible véracité de Dieu révélant, et grâce à la proposition faite par l'Église, la connaissance de ce qui est caché au sein de la Déité. Comment entendront-ils s'ils ne sont pas enseignés? Et comment seront-ils enseignés si ce n'est par le moyen d'énoncés et de notions? Et comment seront-ils enseignés infailliblement si ces énoncés et ces notions ne signifient pas par mode analogique, suranalogique, cela même qui est en Dieu? On comprend par là que la foi atteint la déité même et dans des énoncés rigoureusement vrais, mais de loin, à distance. Je veux dire, grâce au procédé analogique impliqué par l'usage même des notions et des énoncés. Pour devenir sagesse et contemplation, la connaissance de foi devra, sous une grâce divine d'inspiration et d'illumination, et toujours cependant dans une obscurité translumineuse, qui demeure tant que Dieu n'est pas vu en lui-même, faire cesser progressivement ce de loin, cette à distance, c'est-à-dire devenir expérimental et procéder apophatiquement, en se délivrant du mode limité des concepts, non par une connaissance intellectuelle qui transcenderait le oui et le non, mais par une passion des choses divines qui goûte et touche par le non la profondeur infinie du oui. Texte magnifique qui montre combien l'intelligence est au centre de l'homme en tant qu'image de Dieu. C'est un peu ce qu'on pourrait retenir de saint Thomas d'Aquin. C'est une intelligence éclairée, c'est-à-dire inspirée par ses heures d'oraison, par toute la liturgie, par les sacrements, par toute sa vie intérieure. Et cette intelligence, on va dire exemplaire, qui retrouve une sorte de lumière angélique, peut aller très loin, non seulement dans la synthèse, mais dans le concept. Parce que saint Thomas a fait une synthèse exceptionnelle du savoir de son époque, hein, au XIIIe siècle, et en même temps est allé très loin dans le concept, puisqu'il a donné à la théologie son assise à partir d'outils philosophiques forts, puisque la philosophie a pu être considérée de manière éminente à partir de lui comme servante de la théologie. On parle du rôle ancillaire de la philosophie. Notre texte de transition a insisté sur la différence d'approche. Vous l'avez senti, l'intelligence est notionnelle, elle est un peu ce vêtement de l'intelligence, comme les feuilles de figuier ont recouvert le corps d'Adam et Ève dans le paradis perdu, dans l'Éden, pardon. Et à côté de l'intelligence, il y a un toucher, un sentir, hein, je répète, qui goûte et touche par le non la profondeur infinie du oui. Par le non, c'est-à-dire on ne va pas dire oui au concept. On va avoir une autre approche. Et c'est un oui infini, c'est un oui de charité. Maritain ouvre la deuxième partie, c'est-à-dire sur le chapitre 6, hein, cette partie qui est toute consacrée à saint Jean de la Croix, sur la distinction entre trois sagesses. La première est la sagesse métaphysique. On peut dire que c'est la sagesse aussi de philosophie naturelle. C'est Aristote qui donne ce nom à métaphysique, ce qui vient après la physique. C'est une théologie naturelle. Et Maritain l'a abordée dans tout ce qui précède des degrés du savoir. La deuxième sagesse, c'est celle de la contemplation infuse, c'est-à-dire éclairé par l'Esprit-Saint, par le Verbe et le Père, par l'inhabitation trinitaire au cœur de l'homme, et elle est dans l'oraison, elle c'est la vie de la contemplation normale de tout chrétien. Et puis la troisième sagesse, c'est la sagesse des saints, c'est-à-dire de ceux qui voient Dieu. C'est ce que nous devrions être à la fin de notre passage sur terre, de notre vie sur terre, de notre pèlerinage, car nous sommes in via, pour aller in patria, dans la patrie, avec un seul but qui est celui de voir Dieu. Autrement dit, on est encore dans des degrés du savoir, puisqu'en ayant la contemplation d'une sagesse infuse, celle d'un mystique comme Saint Jean de la Croix, que Maritain va prendre comme exemple, nous sommes dans un deuxième niveau de sagesse qui n'a rien à voir avec la sagesse métaphysique. La première distinction, vous l'avez tout de suite senti, c'est qu'elle est expérimentale. La métaphysique est une science et elle est conceptuelle. Son but, c'est de savoir par le concept, par la tête, on va dire. La deuxième sagesse donne une expérience de Dieu. Vous avez tous en tête la magnifique statue du Bernin représentant l'extase de Sainte Thérèse d'Avila à Rome. Il s'agit d'un toucher, d'un vécu, et c'est là-dessus que Maritain va s'arrêter dans ce chapitre qu'il intitule à juste titre « Expérience mystique et philosophie ». Alors on va quitter Saint Thomas en apparence pour s'attacher à Saint Jean de la Croix, mais je dis bien en apparence parce que pour Maritain, Saint Jean de la Croix est pétri de thomisme. C'est la lecture que l'on fait. Nous fêtons cette année, en 2023, les 700 ans de canonisation de saint Thomas d'Aquin. Et donc, saint Jean de la Croix, qui arrive juste après, à la Renaissance, est pétri de saint Thomas que l'on lit dans les séminaires et dans tous les hauts lieux de théologie. C'est à partir de cette préparation, on pourrait dire, du terrain, aussi bien intellectuel que spirituel, que saint Jean de la Croix va pouvoir accueillir la grâce. Et Maritain a un mot qu'il forge lui-même, assez surprenant, pour parler de cette préparation des mystiques à cette expérience mystique qui n'est pas recherchée. Elle est donnée, elle est gratuite. Ce qui est recherché, c'est l'union au Christ. Mais l'union au Christ, dans l'oraison, se fait paradoxalement par une inconnaissance, c'est-à-dire par une sorte de désert, par une sorte d'obscurité. Le carme, ou tout mystique, le chartreux, ou vous-même, dans votre vie de baptisé, vous ne cherchez pas l'expérience, parce que l'expérience ou la sensation, c'est encore se complaire en soi-même. C'est une complaisance, c'est une quête de soi. La quête de Dieu nous fait sortir de nous-mêmes et de telle manière que Maritain forge ce mot « expropriation ». La préparation à l'union mystique, c'est-à-dire à l'union dans l'oraison, elle demande une expropriation de soi. Ça ne veut pas dire se néanter. Vous êtes bien d'accord que dans une philosophie de l'être, ce serait une absurdité. Il ne s'agit pas non plus d'une façon bouddhiste où la goutte d'eau vient se perdre dans l'océan du tout avec comme modalité la fusion. Non, on est dans une religion de la personne où il ne peut y avoir qu'une union, c'est-à-dire vous restez pleinement personne pour être uni à la personne du Christ. Mais la blessure du péché fait que nous sommes toujours involués vers nous-mêmes et que pour se détourner de nous-mêmes, l'expropriation du soi va passer par un premier palier qui est une sorte de purification des sens. Purification des sens que vous pouvez mener déjà dans votre quotidien en disant, ben voilà, je mange moins de ceci, de cela que j'aime pour apprendre un petit peu d'ascèse. Le mot est lâché. L'ascèse est importante, les temps liturgiques nous y invitent, le carême, l'avant aussi. Et puis, avant les grandes fêtes, on parlait de jours d'abstinence ou de jours de jeûne. Mais il n'y a pas que le jeûne de nourriture. On peut choisir de jeûner de films, de jeûner de Google, de jeûner d'Internet. On n'ouvre pas l'ordinateur pendant une semaine. Alors, tout le monde hurle, on est intouchable, mais c'est une santé spirituelle qui apporte bien plus de grâce à la terre que d'ouvrir Google de manière systématique parce qu'on a 10 minutes de métro. Du coup, cette expropriation de soi, elle a plusieurs modalités et vous voyez bien ce qu'elle veut dire. Elle veut dire se mettre dans des conditions qui font que je m'oublie pour que je puisse devenir un autre. Il s'agit d'un dialogue, d'une rencontre entre le je et le tu qu'est le Christ. Et cette expropriation de soi, elle est une préparation à cet acte où, dans le paradoxe ultime, parce qu'on est complètement exproprié, on peut recevoir le Christ. Alors de manière tangible, quand il y a une manifestation, une expérience mystique comme l'a vécu Saint Jean de la Croix ou Sainte Thérèse, de manière non tangible mais bien réelle, parce que le réel ne se limite pas à ce que nous sentons ou à ce que nous voyons. N'oublions jamais que le credo dit « je crois dans les choses visibles et invisibles ». C'est l'invisible est autant réel que le visible. Le matérialisme a fait qu'on confond les plans, mais si on veut comprendre ce qu'apporte au plan de la connaissance cette expérience mystique, il faut bien saisir qu'elle est tout le temps là, cette expérience mystique. Quand elle se rend tangible, elle n'est pas plus ou moins réelle que lorsqu'elle est invisible, intangible, qu'elle est dans la nuit obscure. Mais à partir de cette tangibilité, on peut peut-être apprendre des choses, les transmettre, et c'est ce que va tenter Maritain à la fin des degrés du savoir. Grâce sanctifiante, nouvelle théologie, que peut apporter l'expérience mystique? Quand je dis nouvelle théologie, c'est un nouveau mode de théologie qui n'est pas un mode conceptuel. Maritain, après s'interroger sur l'expérience mystique naturelle, je laisse de côté ce débat parce que tout le monde n'est pas d'accord. Regardons ce que Saint Jean de la Croix peut apporter. S'arrête sur ce que signifie participer à la nature divine. Toute la théologie de la grâce sanctifiante s'appuie sur la parole de Saint Pierre. La grâce nous fait participants de la nature divine. Comment pouvons-nous donc être rendus des dieux par participation, recevoir communication de ce qui est propre à Dieu seul? Comment un sujet fini peut-il participer formellement la nature de l'infini? Les thomistes, vous devinez la réponse qu'ils vont faire. Je vous le donne en mille. Si vous avez maintenant compris comment on connaît, alors je vais vous aider. Comment on connaît en philosophie thomiste? On connaît par la relation à l'objet, et c'est l'objet qui prime. C'est-à-dire que le sujet connaissant devient l'objet connu. Comment? Par intentionnalité. Dans la hiérarchie des sens externes, puis des sens internes et d'information du concept, c'est par intentionnalité que le jeu devient l'objet connu. Cette façon d'envisager la connaissance est fondamentale parce qu'elle est immanente. Il ne s'agit pas de concevoir la connaissance comme quelque chose d'extérieur, comme quand je dis « j'ai un bic, un stylo bille dans les mains ». Ça, c'est transitif. Il y a un jeu et puis un COD, il y a un stylo bille, il y a un objet séparé. La connaissance n'est pas de cet ordre-là. Il n'y a pas « j'ai une connaissance, j'ai un concept ». C'est plutôt un « je suis devenu ce que je connais ». Donc c'est immanent, c'est pas transitif, et du coup, vous comprenez que ça permet de comprendre l'expérience mystique, c'est-à-dire la participation. Voilà comment Maritain donne la réponse. Les thomistes répondent, c'est dans l'ordre de la relation à l'objet que l'âme est ainsi infinitisée, une participation formelle de la déité qui serait impossible s'il s'agissait d'avoir la déité pour essence. C'est évident, ceux qui n'est pas Dieu reçoivent pour essence l'essence même de Dieu, cette absurdité pure. Donc, est possible s'il s'agit d'avoir la déité pour objet, que ce qui n'est pas Dieu soit élevé dans le fond premier lui-même et les énergies d'où procèdent ces opérations à avoir pour objet d'intelligence et d'amour Dieu lui-même tel qu'il se voit et qu'il s'aime. Donc, même processus que pour l'intelligence, mais vous le voyez, il y a un parallélisme, intelligence et amour. La surélévation de l'homme qui devient Dieu par participation, c'est par charité, c'est par amour. Du coup, vous comprenez mieux pourquoi saint Thomas peut être dit apôtre des dents modernes ou docteur commun ou l'apôtre de l'intelligence par excellence. C'est parce que son intelligence va être surélevée par la charité, du fait de ses extases mystiques et de sa vie d'oraison. Alors, comment comprendre qu'on puisse avoir une connaissance par l'expérience mystique? Eh bien, c'est évident. Nous allons suivre ce que les mystiques rapportent de leurs écrits, puisqu'ils ont couché par écrit leur expérience, pour saisir un petit peu plus ce qu'on peut dire de Dieu. Saint Jean de la Croix écrit des poèmes. Saint Thérèse de l'Enfant Jésus écrira Histoire d'une âme. Chacun écrit comme il peut. Pourquoi ? Parce que l'écriture est compliquée. Tout simplement parce que notre écriture est linéaire et d'une certaine manière conceptuelle, même si on la veut la plus poétique possible. La poésie a l'avantage de donner des images, d'être plus proche de la réalité de l'expérience mystique, mais elle a l'inconvénient précisément de n'être pas conceptuelle et d'être finalement assez hermétique pour le philosophe qui devra tirer des concepts, et on pourra toujours lui reprocher que son objet formel, c'est-à-dire la poésie, n'est pas elle-même un objet en adéquation avec sa fin. La fin de la poésie n'est pas le concept. La fin de la poésie, c'est de dire l'être, de dire une expérience, mais pas de connaître de manière conceptuelle une expérience. Donc, allons-y sur cette pente serrée, étroite, et qui peut apporter des résultats tout à fait inattendu. Maritain est très attentif à cela. Il sait très bien qu'il peut être incompris et qu'il faut surtout démêler la tendance au mysticisme, on va dire, qui est très présente dans ces années 20 et 30. Et il distingue à partir de ces deux objets formels. Voici le petit passage. On voit quel danger il y aurait à brouiller si peu que ce soit ces deux objets formels. Ce serait risquer de confondre notre intellectualité de nature, c'est-à-dire la métaphysique possible, et notre intellectualité de grâce, c'est-à-dire l'expérience mystique. Sans doute, de par notre nature même d'être raisonnable, sommes-nous proportionnables à l'essence divine comme objet de vision, mais nous n'y sommes proportionnés que par la grâce. C'est le propre de la grâce de nous y proportionner radicalement, par elle-même, de façon prochaine, par la lumière de gloire. Et cela est entièrement surnaturel. Cette proportionnabilité n'est que la puissance obédientielle de notre âme à l'égard du premier agent. Le propos vous semble peut-être difficile. Puissance obédientielle, c'est la puissance d'obéissance de notre âme qui va se mettre en docilité vis-à-vis du premier agent qui est Dieu. Alors, rappelons ce que c'est que l'inhabitation des personnes divines dans l'âme avant de nous retrouver la semaine prochaine. Dieu est présent en nous, au plus intime de nous, comme au plus intime de toute chose. Par son immensité, ou au titre de son efficience infinie, parce qu'à chaque instant, il nous donne l'être et l'agir. Mais c'est de bien autre chose que de cette présence commune d'immensité qu'il s'agit ici. Il s'agit d'une présence spéciale, absolument propre, aux âmes en état de grâce. Et c'est sur cette présence spéciale que nous nous arrêterons la semaine prochaine.